Le journal de Thomas Cluzel, France Culture, il est midi 32.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. La fin d'une longue saga judiciaire au retentissement international. Ce matin, la Cour suprême pakistanaise a ouvert la voie au départ de son pays, de la chrétienne Asia Bibi, en rejetant l'ultime recours contre son acquittement prononcé en octobre dernier. La Chine accuse aujourd'hui les États-Unis de manipulation politique dans l'affaire Huawei. Hier, Washington a dévoilé des chefs d'inculpation contre le géant chinois des télécoms et sa directrice financière actuellement détenue au Canada. Cinq jours après avoir reconnu le chef du Parlement, Juan Guaido, comme président par intérim du Venezuela, les États-Unis ont décrété cette nuit de nouvelles sanctions contre la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne, sanctions aussitôt jugées comme illégales par le Kremlin qui accuse Washington d'ingérence. Les autorités françaises s'interrogent sur ce qu'il adviendra des djihadistes français et de leur famille après le retrait des États-Unis de Syrie. Paris redoute notamment qu'ils tombent entre les mains d'un régime qui pourrait soit les utiliser comme moyen de pression, soit les laisser en liberté. Ce matin, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé que les autorités se préparaient donc à un retour en France de ces djihadistes détenus au Kurdistan afin qu'ils soient remis à la justice. Nous reviendrons également sur la polémique autour de la présence du député Mjib El Gharab dans la commission d'enquête parlementaire tout juste créée sur les violences d'extrême droite. Ce député des Français de l'étranger est en effet lui-même mis en examen pour violence après avoir fracassé le crâne d'un cadre du Parti Socialiste. Enfin, à l'occasion de cette journée spéciale, grand débat sur l'antenne de France Culture, invité du journal dans une vingtaine de minutes, Jacques Cornec, maire de Bourgheim et président de l'association des maires ruraux du Bas. C'est non seulement l'ultime volet judiciaire d'une affaire devenue un symbole des dérives de la loi réprimant le blasphème au Pakistan, mais plus encore, c'est la décision qu'espérait Asia Bibi pour qu'enfin plus rien ne l'empêche de quitter désormais son pays. Ce matin, la Cour suprême a rejeté l'ouverture d'une procédure en appel contre l'acquittement de cette mère de quatre enfants, condamnée à mort en première instance en 2010 pour avoir tenu des propos critiques envers l'islam lorsque des voisins lui avaient demandé de ne pas boire de l'eau dans le même verre qu'eux au prétexte qu'elle était chrétienne. Son acquittement, prononcé le 31 octobre dernier, avait immédiatement suscité des manifestations de milliers d'islamistes exigeant sa pendaison. Depuis, elle était contrainte de vivre sous haute protection. Et depuis ce matin, eh bien, la décision de la plus haute instance judiciaire du Pakistan ouvre donc la voie au départ de la jeune femme de son pays. Les précisions sur place de notre correspondante Solène Fioretti.
C'est la fin d'un très long cauchemar pour Asia Bibi. Il a pris fin dans la salle d'audience numéro 1 de la Cour suprême par ces mots de la part du juge. L'acquittement d'Asia Bibi est juste et définitif. Nous ne reviendrons plus jamais sur ce cas. L'appel des islamistes radicaux qui contestaient le verdict a donc été rejeté. À leur attention, l'un des juges a souligné qu'il espérait échapper cette fois aux menaces de mort et aux fatwas. Après le verdict du 31 octobre dernier, plusieurs militants radicaux avaient menacé de mort les juges et l'avocat d'Asia Bibi. L'armée pakistanaise avait par la suite procédé à des centaines d'arrestations. En quittant la cour, l'avocat de la chrétienne a fait part de sa grande joie devant les journalistes. Asia Bibi va pouvoir enfin choisir sa vie, et je l'espère dans un bon pays. Le Canada, où se trouvent ses enfants, pourrait être sa prochaine terre d'accueil. Un dispositif sécuritaire important, incluant les forces paramilitaires, a été déployé dans la capitale Islamabad, car les autorités craignent qu'un attentat frappe la Cour suprême.
Ces derniers mois, c'est peu de dire que les États-Unis n'auront pas été avares de provocations et de polémiques en tout genre contre la Chine, outre sa guerre commerciale déclenchée à coups de taxes douanières. L'administration américaine de Donald Trump n'a pas hésité à accuser Pékin de bellicisme à l'égard de ses voisins, mais aussi de développer un État totalitaire à l'intérieur de ses frontières en bafouant notamment les droits des minorités religieuses. Dernier exemple en date de cette confrontation, hier les États-Unis ont dressé une longue liste de chefs d'inculpation à l'encontre du numéro 1 mondial des équipements de télécommunications, le géant chinois Huawei, dans deux affaires qui risquent d'envenimer un peu plus encore donc les tensions entre Washington et Pékin. Tout d'abord, le ministère américain de la Justice a dévoilé en grande pompe 13 chefs d'inculpation liés à des violations des sanctions américaines contre l'Iran, à l'encontre donc du groupe chinois, mais aussi de sa directrice financière Meng Wanzhou. Et puis parallèlement, il a inculpé deux filiales de Huawei, notamment d'associations de malfaiteurs en vue de voler des secrets industriels. Alors de quoi s'agit-il exactement? Christian Chesneau a posé la question à Olivier Kempf, consultant en cyberdéfense.
Ça fait longtemps que les Occidentaux soupçonnent les Chinois, et notamment la compagnie Huawei. Souvenez-vous, il y avait eu un rapport Bokel sur le cyber publié il y a 8 ans. Et déjà, il alertait sur Huawei. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Les Chinois ont une cyberstratégie qui est clairement d'abord de souveraineté et ensuite d'espionnage. Là non plus, c'est pas nouveau. Grand 3, ils veulent quand même faire des affaires. Et donc, ils n'arrêtent pas de dire, ah ben, vous comprenez, on fait juste que d'offrir des services, et puis. Derrière, on sait bien, malgré tout, que, notamment sur les questions de câbles, mais même peut-être maintenant sur d'autres segments, il y a probablement des failles, des trappes logicielles, ce qu'on appelle des backdoors. Et c'est inquiétant. Et donc, pourquoi maintenant? Parce que les États-Unis sont actuellement dirigés par Donald Trump, et que l'obsession de Donald Trump, c'est la rivalité avec les Chinois. Les Chinois sont l'obsession de Donald Trump. Il essaye de faire pression, et là, il utilise probablement une autre corde à son arc, qui est celle de pression judiciaire sur une entreprise particulière qui s'appelle Huawei.
Voilà, Olivier Kempf, consultant en cyberdéfense, il répondait à Christian Chesneau. Et puis comme attendu, je précise que Pékin n'a pas tardé à réagir et accuse les États-Unis de manipulation politique. Les États-Unis, toujours eux, ont encore fait monter la pression hier, cette fois-ci sur le régime de Nicolas Maduro, en annonçant des sanctions contre la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne. En clair, Washington a décidé de s'attaquer désormais aux hydrocarbures, la première source de revenus de Caracas, tout en continuant à appeler la communauté internationale à reconnaître l'opposant Juan Guaido comme président légitime. C'est une correspondance à New York signée Loïc Loury.
Moins d'une semaine après avoir reconnu Juan Guaido, Washington sort l'artillerie lourde. Les États-Unis visent désormais Petroleos de Venezuela, la compagnie nationale, un véhicule de corruption selon la Maison-Blanche. PDVSA ne peut plus faire de commerce avec des entités américaines, ses fonds ont été gelés pour empêcher le détournement de davantage de ressources selon le département du Trésor. Les raffineries liées à la compagnie et situées sur le sol américain pourront continuer à fonctionner, mais les fonds iront directement sur un compte bloqué. Dans le même temps, les États-Unis poursuivent l'offensive diplomatique. John Bolton, conseiller à la sécurité nationale, exhorte ainsi l'armée vénézuélienne à accepter la transition démocratique en cours. Quant à une possible intervention militaire, John Bolton, toujours, affirme que toutes les options sont sur la table. Les journalistes n'ont pas manqué de repérer cette ligne sur son bloc-notes. 5000 soldats en Colombie, sans obtenir plus d'explications.
Je précise que le président vénézuélien a aussitôt répliqué en annonçant des poursuites contre les États-Unis. De son côté, le Kremlin a également dénoncé ce matin ces nouvelles sanctions américaines jugées illégales. Au Brésil, l'espoir de trouver des survivants s'amenuise après la rupture vendredi dernier d'un barrage qui a fait, selon un dernier bilan, 65 morts et 279 disparus. Les opérations sont notamment compliquées par un terrain particulièrement difficile, de vastes zones de boue qui peuvent s'étendre sur plusieurs centaines de mètres de large et allant jusqu'à 15 mètres de profondeur. Et puis toujours au Brésil, au moment même où Jair Bolsonaro subissait une longue intervention chirurgicale, le général Hamilton Mourão, lequel occupe de facto le poste de président par intérim, a affirmé hier que le gouvernement ne prévoyait pas pour le moment un transfert de son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, une déclaration qui illustre à tout le moins une certaine confusion au sein du pouvoir sur ce dossier. Affaibli mais toujours déterminé à mener à bien la sortie de son pays de l'Union européenne, la première ministre britannique affronte aujourd'hui une énième bataille parlementaire sur le Brexit. L'ordre du jour prévoit que les députés seront appelés à voter une simple déclaration relevant qu'ils ont bien débattu des réponses apportées par Theresa May après le revers cuisant que celle-ci a dû essuyer le 15 janvier dernier. Alors certains députés pourraient malgré tout vouloir profiter de ce nouveau débat parlementaire pour prendre la main sur le processus, avec à la clé la possibilité de tenter de différer, voire de bloquer le Brexit, mais pour l'essentiel, tout l'intérêt du débat de ce soir résidera donc dans les amendements qui seront soumis au vote des députés, amendements de nature ou non à assurer ensuite à la Première ministre une majorité à la Chambre des communes. Quoi qu'il en soit, à un mois et demi maintenant de la date prévue du Brexit, l'incertitude politique donc se prolonge et c'est ainsi que dans la perspective de plus en plus probable d'une rupture brutale entre l'UE et Londres, les annonces se sont multipliées ces derniers jours de la part d'entreprises bien décidées à fuir les côtes britanniques. C'est le cas notamment des navires de la compagnie de ferries, P&O, joyaux de la couronne, lesquels battront l'avenir à l'avenir dernier pavillon chypriote. Le groupe Dyson, célèbre pour avoir inventé les aspirateurs sans sac, a lui annoncé le déplacement de son siège social à Singapour. Quant à Sony, le géant de l'électronique japonais, il a décidé d'installer son siège européen à Amsterdam. Alors comment la capitale hollandaise se prépare-t-elle à accueillir toutes ces multinationales? C'est un reportage d'Angélique Boin.
Julien Patrice est en charge du Benelux chez Alnylam, une entreprise pharmaceutique américaine en pleine croissance, 1000 employés dans le monde. Ses bureaux sont à l'Atrium, un centre d'affaires haut de gamme. Ici, dit-il, tout est fait pour nous faciliter la tâche.
Une volonté politique affichée de créer un hub de biotech ou pharmaceutique mondial. Et ils ont une série d'agences d'investissement qui nous ont proactivement démarché pour nous vendre l'infrastructure hollandaise. Et au-delà du pitch, qui nous ont accompagnés pour trouver des bureaux, pour trouver des partenaires économiques. Et donc pour nous, en tant qu'entreprise en pleine croissance, ça nous paraissait complètement naturel de nous établir en Hollande après ça.
Amsterdam is a major hub for international business.
Des agences nationales qui vantent les atouts du pays sur Internet, le plus grand port d'Europe, le quatrième aéroport européen, une main-d'œuvre qualifiée et polyglotte et une fiscalité avantageuse. Dans le hall d'une tour voisine, Karima est en charge de la promotion du quartier.
On est à 6 minutes en train de l'aéroport, mais en plus, on met 15 minutes, voire moins, en métro pour le centre-ville. 80% des gens parlent anglais et on accueille plus de 700 entreprises. C'est hyper dynamique.
Mais il faudra que l'immobilier et les écoles internationales soient à la hauteur pour accueillir les familles d'expatriés.
Quelques 30 000 personnes ont fui la ville de Ran dans le nord-est du Nigeria en l'espace de 48 heures seulement pour échapper aux djihadistes du groupe Boko Haram. C'est ce qu'a annoncé ce matin le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. La ville de Ran est située à la frontière avec le Cameroun. Or, la panique aurait été déclenchée justement par le retrait dimanche dernier des troupes camerounaises qui avaient été déployées pour tenter de contrer l'insurrection djihadiste. Les autorités françaises se préparent à un retour en France de djihadistes du fait du retrait annoncé des forces américaines de Syrie. C'est du moins ce qu'a laissé entendre ce matin le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lequel a ajouté que tous les revenants seraient dès lors remis à la justice pour être jugés. En revanche, le ministre de l'Intérieur n'a pas voulu dire combien d'hommes et de femmes étaient potentiellement concernés. Toujours est-il que le gouvernement laisse donc entrevoir sur cette question une inflexion de sa position, puisque jusqu'ici, les autorités françaises ne voulaient pas entendre parler de retour ou de rapatriement de djihadistes français, hommes ou femmes, sur son sol. Je vous propose d'écouter la réaction à ce sujet de Marie Dosé, avocate de plusieurs femmes et enfants détenus au Kurdistan. Elle déplore ces informations contradictoires, selon elle, délivrées donc ce matin par Christophe Castaner.
Je rappelle quand même qu'en 2 années, tout a été annoncé. D'abord des retours au cas par cas, puis pas de retour du tout, des femmes qui resteront là-bas pour être jugées par les Kurdes, des enfants qui seraient peut-être rapatriés, surtout pas de retour des djihadistes. Et aujourd'hui, on nous informerait que finalement, les hommes djihadistes rentreraient en France pour être jugés avant même les femmes et les enfants qui se retrouvent là-bas. Tout ça n'a strictement aucun sens et je m'en désole. Aujourd'hui, contraints et forcés, les autorités françaises expliquent qu'il est important que ces djihadistes soient jugés en France. La réalité, c'est que ces rapatriements sont nécessaires à notre sécurité. De ces rapatriements dépend notre sécurité, parce que les Kurdes n'en peuvent plus, qu'ils vont ouvrir les portails de ces centres de détention en disant « maintenant ça suffit ». On ne peut plus les nourrir, les soigner, les garder, c'est à vous de vous en occuper, vous ne les rapatriez pas, nous les libérons. Mais ça, cette question-là se pose depuis 2 années. Maintenant, les informations que j'ai, moi, du camp Roj, c'est qu'il semblerait que les choses bougent. En tout cas, il m'a été indiqué, mais tout ça reste au conditionnel, bien sûr, que les services seraient actuellement présents au camp Roj pour organiser certains retours. Mais c'est tout. On est dans un flou artistique depuis maintenant près de 2 années. Flou artistique qui est suscité par l'absence de position claire et officielle depuis le début de cette affaire.
Marie Dosé, avocate de plusieurs femmes et enfants de djihadistes détenus au Kurdistan, elle répondait à Florence Turm. Durcir les sanctions contre les violences sans entraver la liberté de manifester, avec une majorité pas toujours à l'aise entre d'un côté une gauche qui la juge liberticide et une droite restant sur sa faim, les députés s'engagent aujourd'hui dans un véritable numéro d'équilibriste lors de l'examen de la loi dite anti-casseurs. Le texte qui arrive en discussion à l'Assemblée donc a d'ores et déjà été assez largement édulcoré en commission des lois la semaine dernière. C'était une initiative de la France insoumise, la création la semaine dernière d'une commission d'enquête parlementaire sur les violences d'extrême droite. Les députés s'interrogent en effet sur la montée des violences imputées à ces groupuscules d'ultra-droite à l'encontre d'étudiants, mais aussi des menaces de mort visant plusieurs élus de la République. Alors cette commission sera chargée notamment de dresser un état des lieux de ce phénomène et bien entendu de proposer des solutions pour l'éradiquer. Problème toutefois, parmi les membres de cette commission figure un certain Mjib El Gherab. Or, ce député des Français de l'étranger a été mis en examen en août 2017 pour violence volontaire avec arme par destination. Les explications d'Antoine Marette.
Mjib El Gherab est accusé d'avoir frappé avec son casque de moto l'ancien premier secrétaire de la Fédération PS des Français de l'étranger. Des violences qui ont valu à Boris Faure une hospitalisation en soins intensifs. Et quand Boris Faure a appris ce week-end que Mjib El Gherab était membre de cette commission d'enquête sur les groupuscules d'extrême droite, son sang n'a fait qu'un tour.
Cette nomination de quelqu'un qui m'a ouvert le crâne, c'est un peu comme si on nommait un pyromane dans une commission chargée de lutter contre les incendies. Donc c'est une nomination qui me semble politiquement frappée d'illégitimité, d'immoralité. Je pense qu'il y a eu, à mon avis, une prise de conscience qui ne s'est pas faite.
Mjib El Gherab a depuis cette affaire quitté La République En Marche. Il est désormais membre d'un groupe parlementaire très baroque, Libertés et Territoires. C'est ce groupe qu'il a désigné pour siéger dans cette commission. Et la présidente de la commission, Muriel Rességuier, membre de la France Insoumise, assure qu'elle n'a pas eu son mot à dire.
Moi, en tant que présidente, je n'ai pas la main sur ça, en fait, sur le choix des gens. Chaque groupe, chaque mouvement ou parti politique choisit qui il présente.
Est-ce que vous comprenez que cette nomination de Mjib El Gherab choque ?
Je comprends que ça puisse vous étonner, mais voilà, moi je vous dis, j'ai pas la main sur le choix des membres de la commission.
Et vous pourriez démissionner ? Vous pourriez dire je refuse de présider cette commission ?
Vous vous rendez compte, la chance d'avoir une commission par groupe qu'on choisit chaque année d'un sujet, moi le combat contre l'ultra-droite est un combat qui m'anime depuis que j'ai 14 ans, donc je vais certainement pas démissionner parce que des groupes choisissent leurs membres et que c'est la règle.
Mjib El Gherab va donc siéger dans cette commission en attendant son procès qui devrait avoir lieu en 2020.
C'est un rebond pour le moins inattendu. La confiance des ménages s'est redressée au mois de janvier de 5 points par rapport aux chiffres de décembre. L'indicateur reste toutefois nettement inférieur à sa moyenne de longue période, précise l'INSEE. Les Français apparaissent non seulement plus optimistes quant à leur situation financière et leur niveau de vie futur, mais aussi moins inquiets sur l'inflation. Le fameux moral des ménages s'était pourtant détérioré ces deux derniers mois, atteignant même en décembre un plus bas depuis plus de 4 ans en raison des inquiétudes liées au pouvoir d'achat. 12h49 sur France Culture, invité politique aujourd'hui en direct de la librairie Kléber à Strasbourg, Jacques Cornec, maire de Bourgheim et président de l'association des maires ruraux du Bas-Rhin. Bonjour monsieur.
Bonjour à tous.
Et à vos côtés pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Une première question, monsieur Cornac, puisque vous intervenez donc à l'occasion de cette journée spéciale Grand Débat sur l'antenne de France Culture, est-ce que vous avez d'ores et déjà, ou est-ce que vous comptez organiser vous-même un débat dans votre commune ?
Oui, je compte tout à fait organiser un débat parce que on s'aperçoit que il faut un peu lancer la machine, puisque c'est comme dans tout groupe ou dans toute conférence, quand il s'agit de passer à la première question, on a toujours du mal à trouver quelqu'un qui se lance, et c'est pour ça on dit toujours en boutade, on passe tout de suite à la deuxième question qui sera mieux.
Donc vous avez décidé de prendre en main un petit peu les choses pour accompagner les Alsaciens. Est-ce que vous avez le sentiment que les Alsaciens s'emparent du grand débat ? Est-ce qu'ils ont des choses à dire ?
Alors je suis sûr qu'ils ont des choses à dire parce que par rapport au débat, alors ce qui est un peu, on va dire, curieux, c'est que quand les cahiers de doléances lancés par l'association des maires ruraux de France a été lancé, il y avait, et tous les gens ont retenu que cahiers de doléances, alors que c'est des cahiers de doléances et de propositions.
Vous avez lancé ça dans votre commune, vous, à Bourgheim ?
Tout à fait, le 8 décembre, je pense que j'étais le premier dans le Bas-Rhin. Et effectivement, j'ai tout de suite eu des gens qui sont venus et qui se sont exprimés. Certains verbalement, donc je les transcris, et puis d'autres qui m'ont amené tout de suite leur prose, et puis certains qui ont envoyé des mails.
Et qu'est-ce qu'on vous dit dans ces cahiers de doléances, justement ?
Par rapport à ces cahiers de doléances, une des principales remontées, c'est le pouvoir d'achat, les hausses sur le carburant, qui a vraiment été très 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 mal vécu, parce que dans le monde rural, la voiture est un élément incontournable, pour se déplacer, contrairement à des villes, on va prendre Strasbourg, où il y a tout plein de transports en commun qui existent, voire le vélo. Dans les communes rurales, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Vous êtes tributaire de la voiture.
Est-ce que c'est ça qui a déclenché, à votre avis, le mouvement, la taxe sur les carburants ?
Il y a eu la taxe sur les carburants, il y a eu le 80 km/h qui a déclenché tout ça, mais je pense que ces deux éléments ont été des révélateurs et qui ont déclenché la lame de fond de tous les gens qui ont commencé à manifester. C'était vraiment un ras-le-bol.
Les 80 km/h, on a vu hier le Premier ministre Édouard Philippe affirmer que c'était une bonne mesure, chiffres à l'appui. Est-ce que cette mesure, vous avez senti qu'elle a suscité, hein, vous en parliez, mais de la réprobation, et qu'est-ce qui précisément suscite de la réprobation ?
Ben, c'est simplement qu'on nous impose quelque chose, sans concertation aucune, et puis on dicte que 80 km/h, c'est mieux que 90. Alors, par rapport aux chiffres annoncés, il ne faut pas perdre de vue que quand il y a des accidents avec des décès, certes, ils sont comptabilisés, mais les autres victimes qui décèdent quelques jours après ne rentrent plus dans cette comptabilité. Donc, il faut toujours manier ces chiffres avec beaucoup, beaucoup de précautions.
Vous n'y croyez pas ?
Pas vraiment. Pas vraiment, parce que, ben, voilà, c'est une annonce. Moi, j'aimerais bien savoir, par rapport à ce laps de temps, combien de véhicules supplémentaires sont sur les routes. Ça aussi, je ne suis pas sûr qu'on puisse me le dire. Je veux dire que c'est un faux débat. Et je pense que, et on en a discuté avant, je pense que beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas, par exemple, que rouler sans permis, c'est plus un délit. C'est simplement une contravention. Donc je pense que de ce côté-là, c'est bien de jouer la sécurité, mais pourquoi on ne va pas dans l'autre sens et on rétablit pas le fait sans permis, c'est un délit.
Est-ce que vous pensez que de redonner le pouvoir sur cette question en particulier des 80 km/h au département serait quelque chose qui serait bien perçu ?
Je pense que ça serait une logique, une réalité de terrain, parce qu'aujourd'hui, ben, c'est bien les départements qui connaissent leur voie départementale, nationale, et qui sont le plus à même de prendre les mesures nécessaires. D'ailleurs, vous voyez, dans certains endroits, il y a déjà des réductions de vitesse, voire 70, pour des croisements qui le méritent.
Vos administrés, qu'est-ce qu'ils ont à dire au gouvernement et qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce qui, à votre avis, permettrait d'apaiser un petit peu la situation et de satisfaire les attentes ?
Je pense par rapport à ça, ben, c'est le pouvoir d'achat. Ben, tout le monde voit le pouvoir d'achat diminuer. Donc, et leurs revenus, face à toutes les annonces, se trouvent un peu impactés. Donc ils se posent vraiment les questions. Et ce qui leur pose beaucoup de questions, c'est le problème d'équité. Pas d'égalité, d'équité, qui n'est pas tout à fait la même chose. Et quand on voit après des annonces dans les journaux, voire pour ne citer que Chantal Jouanneau avec sa rémunération, ça a vraiment levé une polémique. C'est normal. Les gens, quand vous voyez des gens qui travaillent à la chaîne chez Aguerre ou dans d'autres sociétés et qui travaillent parfois pour un peu plus le SMIC, c'est carrément pour eux indécent de mettre en avant des chiffres de ce niveau-là.
Vous avez le sentiment qu'au sein de la population, il y a l'idée que les décisions sont prises par des gens qui ne connaissent pas ce que vivent les gens sur le terrain. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est prégnant ?
Ah oui, ça, tout à fait. Et l'une des choses qui horripile un petit peu les gens, c'est que fait avec les mandats où on peut plus cumuler les mandats, ben on a des parlementaires qui n'ont plus de contact vraiment avec le terrain, ils savent pas trop comment ça se passe, et au bout d'un moment, ben ils sont, on va dire, déconnectés de la réalité de tous les jours. D'ailleurs, il y a quelques exemples, et la presse s'en fait l'écho, quand on pose à des parlementaires certaines questions par rapport au prix de certaines choses, ben il y a vraiment, vraiment un grand, grand décalage.
Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce débat, et qu'est-ce que vous pensez que les Alsaciens, les Barinois attendent de ce débat ? Sur quoi ça doit déboucher ?
Alors je pense que ce débat va faire émerger tout plein de choses. Naturellement, ça va aussi créer des mécontents, parce qu'on ne prendra pas tout en compte, forcément. Donc ça va pas être... Pour ceux, les mesures retenues, ça va être bien. Pour d'autres, ils vont dire « oui, mais pourquoi on n'a pas pris ça ? Ça aussi, c'était important. » Forcément, il va y avoir un arbitrage qui ne va pas satisfaire tout le monde. En tous les cas, ce que les gens retiennent et ce qu'ils souhaiteraient, c'est pouvoir vivre un peu mieux avec un pouvoir d'achat un tout petit peu majoré par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui.
C'est essentiellement cette question du pouvoir d'achat qui...
Le pouvoir d'achat, les retraites, là aussi, on voit que c'est difficile. Quand vous voyez des conjoints d'agriculteurs, certes, ils ont travaillé toute leur vie et on voit qu'ils doivent se dépatouiller avec pas grand-chose. C'est compliqué.
Jacques Cornec, maire de Bourgheim, près d'Aubernay, président de l'Association des maires ruraux du Bas-Rhin. Merci d'avoir été invité de France Culture.
Merci, bonne journée.
Merci à vous. Et on termine avec un mot de météo. Un ciel lumineux de Rhône-Alpes à PACA, partout ailleurs. En revanche, le temps sera marqué par une dégradation pluvieuse de plus en plus marquée, accompagnée même de neige au nord de la Loire jusqu'à la région parisienne, mais aussi sur l'ouest des Pyrénées, le Limousin et le Massif central. Au total, 43 départements sont désormais placés en vigilance orange. Quant aux températures, elles seront généralement comprises entre 1 et 10 degrés cet après-midi. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.